VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 28 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
En République démocratique du Congo, l'UDPS réclame une rencontre entre Kabila et Tshisekedi pour sortir de la crise.
Au Gabon, les magistrats entrent en grève pour 15 jours renouvelables.
Au Burkina Faso, le monde politique de nouveau ouvert aux militaires.
Réaction à la publication d'une nouvelle monnaie au Zimbabwe.
Et les Cubains rendent un dernier hommage à Fidel Castro. On revient ce soir sur les relations entre l'Afrique et Cuba sous le régime du leader Maximo.
Et bien sûr, les sports et l'économie, juste après le journal.
République démocratique du Congo, l'UDPS va brandir le carton rouge à Joseph Kabila le 19 décembre prochain afin de lui signifier la fin de son mandat et exiger son départ de la tête du pays. Le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi l'a rappelé ce lundi à Kinshasa. Jean-Marc Kabound a une nouvelle fois rejeté l'accord politique qui a sanctionné le dialogue le 18 octobre dernier, traité de non-événement la nomination de Dany Badibanga comme Premier ministre. Il a rappelé que seule une rencontre entre Kabila, Tshisekedi et leurs alliés respectifs pour une gestion consensuelle de la transition permettra de décrisper la tension politique.
Les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre pour notre jeune démocratie, nous ne suivrons pas les vents en guerre qui pullulent dans la majorité élargie, rampant au pied de M. Kabila et faisant des courbettes pour obtenir des postes et des avantages personnels. C'est un dialogue inclusif, mettant face à face Kabila et ses alliés du camp Tshatshi d'une part, Tshisekedi et le rassemblement avec leurs alliés d'autre part, permettra de trouver une solution consensuelle pour la gestion de la période de transition jusqu'aux élections. Sami Badibanga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avait choisi d'ignorer le mot d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale. Depuis 2012, Sami Badibanga et ses collègues se sont auto-exclus du parti. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours.
C'était Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Toujours en RDC, plus de 300 collégiens et lycéens ont manifesté ce lundi contre la cession d'une portion du terrain de sport de leur école à l'ambassade de Chine. Dans la matinée, des élèves de l'Institut de la Gombe ont paré la circulation devant le cabinet du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. L'école a été dépossédée de plusieurs installations au profit du Shark Club, propriété de Zoé Kabila, frère du président congolais ou encore d'une école turque.
Nouvelle monnaie au Zimbabwe, dénommée billets d'obligation de 2 dollars et pièces d'obligation de 1 dollar. Leur apparition sur le marché a provoqué l'effet inverse. Eric Manirakiza vous en dit plus.
La Banque centrale de Harare a lancé aujourd'hui des pièces petites coupures indexées sur le dollar américain. Harare cherche à remédier au manque criant de liquidité, mais ces billets d'obligation de 2 dollars et pièces d'obligation dont 1 dollar ont poussé nombre de Zimbabwéens à se ruer vers les guichets des banques pour retirer des dollars américains. Les contribuables redoutent une nouvelle flambée des prix comme au début des années 2000. Un vendeur de chaussures a avoué discrètement qu'il exigeait 25 dollars de la nouvelle monnaie pour une paire de chaussures contre 20 dollars américains. Pour lui, il n'y a aucune chance pour que cette monnaie puisse avoir la même valeur que le billet vert. Anthony Hawkins, économiste à l'Université du Zimbabwe, renchérit en disant que la mauvaise monnaie chasse la bonne et que le cœur du problème n'est pas réglé. Cette nouvelle monnaie a ravivé la fronde contre Robert Mugabe. L'opposition a annoncé de nouvelles manifestations mercredi contre l'effondrement de l'économie.
Au Gabon, les magistrats ont débuté une grève de 15 jours pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail. L'arrêt de travail a été décidé jeudi, indique le Cinemag sur sa page Facebook. Les magistrats ont rencontré leur ministre de tutelle avant leur mouvement. Ils demandent des bâtiments pour les tribunaux administratifs de Franceville et Port-Gentil et le paiement d'un arriéré de prime d'incitation à la performance. Cette grève vient s'ajouter au mouvement social des enseignants gabonais qui ont décidé samedi de poursuivre le leur.
La cour d'assises d'Abidjan qui juge l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, pour crime contre l'humanité, va établir mardi un calendrier de passage des personnalités ivoiriennes. Madame Gbagbo sera présente demain à l'audience, étant donné que tout est rentré dans l'ordre, a déclaré le procureur général Ali Liéou. Le président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou et l'ex-ministre Charles Kofi Dibi seront cités selon Dohara Blédé, un avocat de Madame Gbagbo.
Le chef de l'ex-junte malienne, Amadou Sanogo, doit être jugé devant la cour d'assises à partir de mercredi à Sikasso pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako avait annoncé fin 2015 le renvoi aux assises de 18 militaires, dont le chef de l'ex-junte, ainsi que les généraux Yamoussa Kamara, ancien ministre de la Défense, et Dairou Dembélé, ex-chef d'état-major des armées, dans l'affaire dite des Bérets Rouges.
Trois ministres du gouvernement sud-africain ont appelé à la démission du président Jacob Zuma, englué dans une série de scandales de corruption qui suscitent de plus en plus de critiques dans son propre camp, ont rapporté ce lundi les médias locaux. Ils ont exprimé leur défiance vis-à-vis du chef de l'État ce week-end lors d'une réunion à huis clos de la direction du Congrès national africain.
Les combats ayant opposé en Ouganda les forces de sécurité aux gardes d'un souverain local, accusé d'être lié à des militants séparatistes, ont fait 62 morts, a annoncé la police ce lundi.
Et le djihadiste Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été visé récemment par une frappe aérienne française en Libye et est probablement mort, selon un responsable américain cité par l'AFP. La frappe a eu lieu avec le soutien du renseignement américain, a-t-il précisé, confirmant des informations parues dans le Wall Street Journal. Mokhtar Belmokhtar a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en 2015 lors d'une frappe américaine et en 2013.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des centaines de milliers de Cubains ont afflué ce lundi sur la place de la Révolution à La Havane pour rendre un dernier hommage à Fidel Castro qui vient de mourir à l'âge de 90 ans. Le point avec Nani Talani.
Cette cérémonie est le premier temps fort d'une semaine d'hommage au leader Maximo. Le choix de la place de la Révolution est très symbolique. L'endroit a été le théâtre de nombreux discours fleuves de Fidel Castro contre l'ennemi impérialiste américain. Après deux jours sous le choc, les Cubains donnent libre cours à leurs émotions. Les cérémonies ont débuté par une salve de 21 coups de canon tirés depuis le fort qui surplombe la baie de La Havane. Des centaines de milliers de personnes, voire des millions, tous les âges confondus, se sont pressés sur la vaste esplanade dominée par une photo géante du disparu. Les funérailles auront lieu dimanche après une procession à travers le pays. Les cendres de Fidel Castro seront transférées à Santiago dans l'Est, berceau de la Révolution. Donald Trump, président élu des États-Unis, a menacé de mettre fin au dégel avec Cuba si La Havane ne donne pas plus de garanties en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique.
En Syrie, peut-être un tournant dans la guerre qui ravage le pays depuis 5 ans et demi. La reconquête d'Alep par le régime est maintenant une question de jours, ce qui serait un coup dur pour les rebelles et leurs alliés occidentaux. Anastasie Tudiech nous en dit plus.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les troupes de Bachar al-Assad, avec des moyens militaires supérieurs et l'aide de leurs alliés russes et iraniens, se sont aujourd'hui emparées de tout le nord-est d'Alep. Après avoir mis en échec plusieurs offensives du régime depuis un an, les rebelles sont débordés par la vaste opération terrestre et aérienne lancée le 15 novembre. Une perte d'Alep Est infligerait aux différents groupes rebelles leur pire défaite depuis le début du conflit syrien en 2011. En outre, ce serait une défaite des alliés de l'opposition, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les pays occidentaux. La communauté internationale a gardé le silence sur l'évolution des combats. Les États-Unis attendent l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Damas veut profiter de ce laps de temps pour réunifier Alep, la deuxième ville de Syrie.
Une alerte aux tireurs a été levée sur le campus de l'Université d'État de l'Ohio, situé à Columbus, depuis lequel 8 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une dans un état grave, ont indiqué les autorités. La police a abattu un suspect selon une chaîne locale citée par l'AFP. Le campus de Columbus, d'environ 770 hectares, est fréquenté par près de 60 000 étudiants. Les fusillades sont fréquentes aux États-Unis, où la détention d'armes est protégée par le deuxième amendement de la Constitution.
En Grande-Bretagne, Paul Nuttall a été élu ce lundi à la tête de l'UKIP et devra relever le défi de succéder au charismatique Nigel Farage, allié de Donald Trump, dont le départ risque de fragiliser le parti anti-immigration et pro-Brexit. Quant à Farage, il repart dès cette semaine aux États-Unis, mais compte rester député européen pour l'UKIP à Strasbourg. À ceux qui pensent que 2016 a été une année horrible, je suis désolé de leur annoncer d'autres mauvaises nouvelles à venir, a-t-il insisté en citant les élections dimanche en Autriche et l'année prochaine aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.
Le président haïtien Joslerm Privert a lancé un appel au calme ce matin avant la publication des résultats du premier tour de la présidentielle prévue pour la fin de journée. Le recours à des actes de violence ne peut que gâcher les fruits de cette belle journée que nous avons tous construit ce jour du 20 novembre, a déclaré M. Privert au palais. Le scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur est une étape indispensable pour permettre à Haïti de retourner à l'ordre constitutionnel après l'annulation du premier tour de la présidentielle tenu en octobre 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir avec par Morgane Guiriec.
Au Gabon, Bolloré reprend les parts de Nekotrans dans le terminal à conteneurs d'Owendo. Nekotrans entend se consacrer exclusivement à ses activités au Gabon dans le cadre d'un redéploiement stratégique vers les terminaux spécialisés. D'après Jeune Afrique, les détails financiers de la transaction ne sont pas connus, mais Nekotrans dément qu'elle vise à renflouer ses caisses. Nouvelle attaque contre une installation pétrolière dans le sud du Nigeria. Les militants nigérians pour une justice sur les terres vertes du Delta revendiquent l'explosion d'hier sur un pipeline de l'entreprise publique Nigerian Petroleum Development Company. Affaibli par cette vague d'attaques et par la chute des cours du baril d'or noir, le Nigeria est entré en récession au deuxième trimestre. Et enfin, la conférence internationale sur l'investissement débute demain en Tunisie. Tunisia 2020 compte lever près de 27,5 milliards d'euros pour financer 64 projets publics, 34 projets en partenariat public-privé et 44 projets privés pour remettre la Tunisie sur orbite économique.
Et nous passons tout de suite à la page sport, suite du tournoi de l'UEMOA au Togo. Au stade Kégué, le Niger affrontait le Mali 0-0 alors que la Côte d'Ivoire va en découdre avec le Togo, battu d'entrée toujours pour le compte du groupe A. Cannes féminine 2016, 24 heures avant les demi-finales, les championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes, doivent se défaire des Sud-Africaines pour conserver leur titre, tandis que le Ghana va défier le pays hôte, le Cameroun. La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine a permis au Nigeria et au Ghana de valider leur ticket pour le dernier carré. Les Nigérianes ont été sans pitié face au Kenyan avec un score sans appel de 4-0. Un match qui s'est joué à Lembe, une ville située à 80 km de la capitale économique camerounaise, Douala. Et à Yaoundé, le Ghana a pris le dessus sur le Mali, 3-1. Le Ghana se fait toutefois devancer, nous dit Nicolas Pino, par le Nigeria grâce à une meilleure différence de but, plus 10 contre plus 4. Moussa Sissoko, dans le viseur de son entraîneur en Angleterre, l'absence samedi à Chelsea du milieu de terrain, du milieu de Tottenham. Moussa Sissoko était un choix tactique, assure dans la presse britannique. Son entraîneur, Mauricio Pochettino, qui appelle sa recrue française peu utilisée, a travaillé dur pour montrer qu'elle mérite de jouer. Sissoko a été transféré cet été de Newcastle à Londres pour environ, écoutez bien, 35 millions d'euros. Mais depuis, il n'a commencé que 4 matchs de Premier League. NBA, championnat de basket nord-américain, les Los Angeles Clippers traversent leur première zone de turbulence de la saison après avoir concédé une deuxième défaite d'affilée dimanche sur le parquet d'Indiana 91-70. Quant à Cleveland, l'équipe a été chahutée à Philadelphie, mais le champion NBA en titre et leader de la conférence Est s'est tiré d'affaire grâce à son Big Three pour s'imposer 112-108. Dallas a renoué avec la victoire après 8 défaites de suite. Les Mavericks sont venus à bout de la Nouvelle-Orléans, 91-81. Houston s'est imposé à Portland 130-114 avec 38 points de sa star James Harden. Enfin, les Lakers, qui sont rentrés dans le rang après avoir perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, se sont relancés en dominant Atlanta 109 à 94. Suivez Nicolas Pineau dans Sporama à 19h TU.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barjigabi d'Orsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Ouagadougou.
Les députés burkinabés ont modifié une loi prise sous la transition. Cette loi interdisait aux militaires d'être nommés à de hautes fonctions, par exemple ministres, ambassadeurs, directeurs généraux. Ils ont aussi repris la loi sur les conditions d'avancement dans l'armée. Bien entendu, un militaire qui veut faire de la politique doit tout simplement démissionner des forces armées. Zoumana Wonogo.
Des 9 présidents qui ont géré le Burkina depuis son indépendance en 1960, seulement 3 sont des civils. Une situation qui démontre à souhait l'omniprésence de l'armée dans les affaires politiques au Faso. C'est pour mettre fin à cette situation que le Parlement de la transition avait voté la loi interdisant aux militaires d'occuper de hautes fonctions et de faire de la politique. Alexandre Sankara porte, lui, 2 chapeaux, celui des députés sous la transition et celui des députés démocratiquement élus. On l'écoute sur ces 2 votes.
J'étais parmi les rares députés de l'époque qui avaient trouvé que cette loi était taillée sur mesure. Cette fois-ci, les modifications principales, c'était de revenir à la situation initiale avant la loi du CNT, notamment l'avancement des militaires. Donc on a supprimé ces dispositions qui ont permis aux ZEDA d'être bombardés général. Il y a aussi le fait qu'on est revenu un peu, entre guillemets, sur les dispositions qui empêchaient les militaires de faire la politique. Cette fois-ci, le gouvernement a expliqué qu'il fallait introduire une disposition qui permette aux militaires d'être nommés à des hautes fonctions de l'État. Alors là-bas aussi, il y a eu des inquiétudes parce que beaucoup de députés ont estimé que c'était un recul. Parce que sous le CNT, quand même, il fallait reconnaître que la loi était dure, stricte, qui interdisait donc aux militaires de faire la politique. Maintenant, si on les nomme à des hautes fonctions comme ministres, est-ce que ce n'est pas, ils ne font pas de la politique à ce moment?
Nous avons rencontré Jean-Pierre Palme. Il est colonel de l'armée et a été ministre des Sports avant la loi de la transition. Suivant son avis sur le fait de lever l'interdiction faite aux militaires.
Si on est revenu là-dessus, je pense que c'est dans la normale des choses. Aujourd'hui, l'armée, ce n'est plus l'armée d'hier où les gens étaient recrutés soit sous les cas, etc., comme on disait dans le temps où on n'avait pas de niveau. Nous avons toutes les compétences au sein de l'armée aujourd'hui. Et si je prends l'exemple même de l'hôpital. Si vous enlevez les professeurs et médecins militaires de l'hôpital civil aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de médecins à l'hôpital. Hein. Et je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de juste que de marginaliser l'armée. Au contraire, il faut permettre à l'armée de vivre au sein du peuple.
Après l'adoption de la loi, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a fait cette adresse à l'armée.
Nous disons à l'armée qu'aujourd'hui, son rôle n'est pas de s'intruser dans la sphère politique. Sous la transition, cette loi a été modifiée pour des besoins personnels, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine militaire, la loi est impersonnelle. De façon générale, je crois que cette loi est acceptable. Bien entendu, l'esprit républicain doit habiter et l'armée et les composants de la nation. Nous devons construire un pays démocratique, une armée républicaine.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Guinée, environ 4000 accidents de la circulation sont enregistrés par an. La majorité des automobilistes n'ayant pas d'assurance sont ainsi obligés de prendre en charge tous les frais. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de la route dans les hôpitaux et autres centres de santé en Guinée. Ils sont plus de 1400 blessés graves enregistrés par an, mais des malades dont la majorité n'est pas assurée. Le centre Mère et Enfant traite parfois des malades avec ses propres moyens. Mamadou Debari, médecin.
On rencontre des difficultés parce que parmi ces patients, il y a beaucoup d'indigents qui ne peuvent pas faire face aux frais des prestations. Nous sommes obligés d'utiliser les maigres moyens de la structure pour traiter ces patients.
Les personnes non assurées devraient pourtant être prises en charge par un fonds de garantie automobile. Mais cette structure mise en place par l'État guinéen et dont la caisse est alimentée par les sociétés d'assurance est peu connue du grand public. Pour Ibrahima Keïta, ex-secrétaire général de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, cette défiance s'explique.
Quand on parle par exemple de l'assurance vie, la Guinée est un pays de musulmans à 85%. Beaucoup sont réticents sociologiquement et culturellement à l'assurance vie. Et aussi le revenu fait que certains Guinéens ne s'intéressent pas à l'assurance. Quand vous prenez l'assurance automobile par exemple en Guinée, sur 100 véhicules qui circulent, vous avez à peine 25-30 véhicules qui sont assurés. Donc, si le taux de pénétration est faible, la masse des assurés est faible, cela fera que la trésorerie des sociétés d'assurance sera elle aussi faible.
L'assurance automobile est obligatoire en Guinée, mais elle peine à être effective.
Les lois de notre pays en matière d'assurance ne sont pas respectées. Il y a des lois qui obligent les usagers de la route à prendre l'assurance automobile. Il y a une loi aussi qui oblige l'assurance des marchandises à l'importation. Mais ce n'est pas quoi, ça ne se fait pas sur le marché. Les opérateurs économiques n'assurent pas leurs marchandises à l'importation. Il y a aussi une loi qui oblige les entreprises minières, les entreprises de travaux publics et de construction, etc. Bref, toutes les grandes entreprises à souscrire des contrats d'assurance en Guinée. Parce que les risques sont localisés en Guinée.
La Guinée a un nouveau code d'assurance. C'est le texte de 1995 qui a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre au secteur des assurances de participer plus activement au développement du pays. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Cap sur la République centrafricaine, l'épidémie de choléra déclarée en août dernier est en perte de vitesse dans ce pays. Aucun nouveau cas n'a été enregistré, aucun malade n'est hospitalisé pour le moment. Cependant, la fin de l'épidémie n'est pas encore officiellement déclarée. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Le niveau d'alerte est à son plus bas degré. Dans tous les centres d'accueil de Bangui et des localités longeant le fleuve Oubangui, aucun nouveau cas de choléra n'est enregistré. Docteur Joachim Tengiri, coordonnateur adjoint chargé des opérations du Centre des opérations d'urgence de santé publique.
Au jour d'aujourd'hui, au niveau du centre de commandement du CUSP, entendez le Centre des opérations d'urgence de santé publique, jusqu'à ce jour, on n'a plus reçu d'alerte. On n'a plus reçu aucune alerte par rapport au choléra. Donc nous sommes en train d'aller vers la fin de l'épidémie de choléra chez nous. Sur le plan technique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus recensé des alertes par rapport au cas de choléra.
Malgré cette nouvelle plutôt bonne pour le pays, la surveillance ne faiblit pas. Le ministère de la Santé, l'OMS et les organisations non gouvernementales internationales poursuivent les séances de sensibilisation auprès des déplacés et des personnes vulnérables. Ces actions devront encore être menées jusqu'en février 2017. La saison pluvieuse fait redouter un risque de propagation de cette maladie. Docteur Joachim Tengiri.
Nous insistons sur la surveillance au niveau de ces différentes formations sanitaires, que ce soit au niveau de la capitale et au niveau, n'est-ce pas, des zones qui ont été touchées par cette épidémie, à savoir la région sanitaire numéro 7, c'est-à-dire Bangui, la région sanitaire numéro 1 et la région sanitaire numéro 4. On ne peut pas déclarer si tôt la fin parce que nous avons encore, n'est-ce pas, nous sommes encore en pleine saison de pluie, donc il y a encore des risques.
Dans les structures sanitaires, le dispositif de prévention et de riposte est toujours en place. Dans la capitale, le mot choléra a disparu des conversations.
À un certain moment, on n'écoute plus parler de choléra. Je vois ici que les Centrafricains, quelque part, ils ont observé certaines de ces règles. Parce que le choléra, comme on comprend bien, c'est une maladie qui est vraiment de manque d'hygiène.
Non. Maintenant, non. Je ne pense pas. Parce que je ne sais pas si les gens ont pris conscience de ça, mais je ne sais pas. J'entends plus parler de ça.
À Bangui, particulièrement pas. Mais je crois que dans les provinces, ce souci persiste.
Et depuis de l'année qu'on entendait parler de la maladie de choléra dans la de Bangui, mais actuellement, je pense qu'il y a une certaine amélioration.
Déclaré le 10 août dernier en Centrafrique, l'épidémie du choléra a fait au moins 21 morts sur 266 cas enregistrés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
On revient sur le décès de Fidel Castro. Dès le début des années 60, Fidel Castro a fait de l'Afrique une pierre angulaire de sa politique. L'exportation de la révolution cubaine était ainsi en marche. Il voulait notamment aider les jeunes nations africaines à se libérer de l'emprise néocoloniale des grandes puissances. En Angola, comme en Afrique du Sud, on se souvient de lui comme un ami de l'Afrique. Salwa Jafari.
The first Cuban unit arrived between the 5 and the 10th of November.
Fidel Castro, cigare à la main, vantant l'envoi de ses troupes en Angola, c'était en 1976. Le leader cubain aura envoyé 50 000 soldats, un soutien qui assura le maintien au pouvoir du mouvement populaire de libération de l'Angola, dirigé à l'époque par le docteur Agostinho Neto. Julio Mateo Paulo était général dans l'armée du MPLA. Il met Castro au même rang que Mandela.
Pour certains, Fidel Castro était un dictateur, mais pour nous, il ne l'était pas. C'est un révolutionnaire, quoi qu'il en soit. C'était un personnage charismatique, même ses ennemis occidentaux le respectaient. Il n'en existe pas beaucoup comme lui dans le monde.
Le monde entier a découvert pour la première fois le degré de l'implication de Cuba en Afrique quand plusieurs soldats cubains ont été arrêtés et exhibés par les rebelles de l'UNITA de Jonas Savimbi. Dès le début des années 60, Fidel Castro fait de l'Afrique une pierre angulaire de sa politique. En 1964, Ernesto Guevara, le Che, sera l'ambassadeur de la révolution cubaine en Afrique et a visité le Zaïre de l'époque. Salim Lamrani est maître de conférence à l'Université de La Réunion, docteur en études ibériques et latino-américaines.
L'une des trois facettes qui caractérise Fidel Castro, c'est celle de l'internationaliste solidaire, celui qui a toujours apporté une aide au mouvement en faveur de l'émancipation humaine, au mouvement révolutionnaire dans le tiers-monde et au mouvement indépendantiste. Donc, Cuba a apporté une aide décisive dès le début de la révolution à l'Afrique.
Nelson Mandela avait une grande admiration pour Castro. Il s'était interrogé, quel autre pays a une telle histoire de comportement désintéressé envers l'Afrique que Cuba ? Parmi les aspects de cette relation, la diplomatie médicale cubaine.
En 1963, l'Algérie a été une nouvelle fois le pays africain qui a bénéficié en premier de cette solidarité cubaine, puisque 55 professionnels de la santé se sont rendus en Algérie pendant plusieurs années pour apporter une aide médicale à une jeune nation indépendante qui faisait face à une grave crise sanitaire.
Certains le qualifient de dictateur, d'autres de héros. Fidel Castro aura en tout cas marqué le continent.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïman a été à la mise en onde. À la console, c'était John Dryden. À la présentation, Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'avoir choisi VOA Afrique. Rendez-vous sur Facebook et voafrique.com, notre site web, pour plus d'infos et des vidéos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.